France Musique.
Retrouvons Benoît Dutertre en compagnie d'un compositeur que l'on aime tant.
Étonnez-moi, Benoît.
Et oui, la rentrée, c'est parfois triste, mais pour moi, c'est une vraie joie, puisque j'accueille ce matin Michel Legrand. Après son retour à la musique avec deux superbes concertos, il a bien voulu me rendre visite pour parler de chansons, d'arrangements, de musique légère, de jazz, de musique de film, de comédie musicale, tous ces genres qu'il a abordés avec ce même talent unique et fabuleux. Micro à Michel Legrand ce matin sur France Musique. Et puis, pour être dans le ton de la rentrée politique et de ces fameuses ordonnances sur le code du travail, j'ai cherché une chanson sur les ordonnances. Et là, je me suis aperçu qu'il ne faut pas confondre une ordonnance avec un ordonnance.
Pour faire un ordonnance, il faut des qualités.
C'est pas ce qui me manque en vérité.
Connaître les convenances de la bonne société.
J'aurais du chic, du maintien, du doigté.
Il faut savoir brosser, faire luire, astiquer, chanter, classer, dresser sans rien casser.
Pour être ordonnance, il ne faut pas de défaut. Il faut savoir faire avec obéissance tout ce que l'on vous ordonne sans un mot. Pour être ordonnance, faut savoir ce qu'il faut. C'est le devoir accompli qui récompense une ordonnance.
Pour vous, dans le service, aucune timidité.
Pour ça, j'aurai de la témérité.
Ne pas être novice, savoir un peu flirter.
Vous en jugerez dans l'intimité.
Vous pourrez m'embrasser.
C'est vrai.
Dans vos bras m'enlacer.
Oh là là.
Tout ça sans avoir l'air de m'offenser.
Pour être ordonnance, il ne faut pas de défaut. Il faut savoir faire avec obéissance tout ce que l'on vous ordonne sans un mot. Pour être ordonnance, faut savoir ce qu'il faut. C'est le devoir accompli qui récompense un ordonnance.
Et oui, donc ordonnance au féminin, prescription, règlement fait par une ou plusieurs personnes qui ont droit et pouvoir de le faire. C'est le cas des actuelles ordonnances sur le code du travail et ordonnance au masculin, soldat attaché à la personne d'un officier pour l'entretien de ses effets, de ses armes et de son cheval, comme nous l'expliquait à l'instant Fernandel avec Marie Bizet dans l'opérette Ignace.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais je vous l'ai dit sans plus attendre, rentrer en fanfare sur France Musique avec Michel Legrand. J'avais eu le plaisir de l'accueillir déjà pour aborder quelques aspects de sa carrière et pas forcément toujours les plus connus, puisque j'aime bien parler avec lui notamment de ses arrangements innombrables pour les chanteurs des années 50 et puis aussi de sa période de musique légère. Il en a composé beaucoup, beaucoup. Tout cela et tout le reste, on va le passer en revue ce matin, enfin en revue, au moins un petit peu en partie, en compagnie donc de mon invité Michel Legrand. Bonjour Michel Legrand.
Bonjour Benoît.
C'est extraordinaire parce que, voilà, c'est un des succès classiques de l'année, votre concerto pour piano, vous-même au piano avec Mikko Franck, l'Orchestre Philharmonique.
Ouais, c'est drôle, c'est formidable. Ouais. Moi, je suis fou de bonheur parce que, oui, c'est que à peine j'ai écrit mon concerto, j'ai trouvé des gens enthousiastes pour m'enregistrer. Ce qui est formidable, c'est incroyable. Oui, très bien, hop. M'enregistrer même avant les concerts, avant que l'encre de l'écriture du concerto soit sèche, on l'enregistrait déjà. Ce qui est formidable.
Mais ce qui est formidable aussi, Michel, c'est que vous nous avez, au fond, habitués à l'idée que très jeune, vous aviez quitté les rivages de la musique classique pour aller faire plein d'aventures dans lesquelles vous avez merveilleusement réussi. Et aujourd'hui, vous revenez comme un jeune compositeur moderne.
Oui.
Comme si vous reveniez à vos premiers amours.
C'est ça, c'est-à-dire que j'ai fait le tour de la Terre et je reviens chez moi.
C'est bien ça.
Oui, c'est tout à fait ça, bien sûr. Vous savez, moi, je voulais, en sortant du conservatoire, exister partout. Je voulais tout essayer, j'étais affamé.
Oui, oui.
J'étais curieux, je voulais tout tenter, je voulais travailler avec tout le monde, les gens de jazz que je connaissais déjà, les gens du classique, les gens du cinéma, la chanson, tout. Je voulais vraiment être un personnage comme ça, qui recevait tout ça et qui pouvait jouer avec.
Et puis finalement, voilà, vous dites aujourd'hui, tiens, il y a quand même une chose que j'ai peut-être pas assez creusée, grande forme classique, le concerto.
Tout à fait. Et maintenant, la musique que j'écris naturellement, quand j'ai envie d'écrire quelque chose, c'est toujours de la musique symphonique maintenant.
Le rôle de notre ami et merveilleux violoncelliste Henri de Marquette a été important dans cette aventure.
Oui, tout à fait, oui, parce que c'est lui qui est venu il y a quelques années, m'a dit, écoutez Michel, voilà, voudriez-vous pencher à écrire un concerto violoncelle pour moi?
Voilà.
Alors comme je le connaissais, j'avais entendu sur disque beaucoup, c'était un formidable violoncelliste, j'ai dit, écoutez, ça me touche beaucoup, je suis très très ému bien sûr, très volontiers, et dans la foulée, je lui ai vraiment écrit son concerto.
Voilà, et ensuite le concerto pour piano a suivi vous-même.
Voilà, tout à coup je me dis, maintenant que j'ai fait un violoncelle, je vais faire un piano pour moi. Et alors, je ne me suis pas gâté, c'est-à-dire que j'ai écrit une partition difficile en disant « c'est bien fait pour toi, mon imbécile, tu vas devoir travailler ».
J'ai lu d'ailleurs quelque part que finalement, dans ce tour du monde, comme vous avez dit, en gros, tous les 10 ans, vous avez besoin de changer d'air musical.
Oui, changer de crèmerie, c'est-à-dire que vraiment, je voulais passer du cinéma au théâtre, puis après à la télévision, voilà. Puis ensuite au disque, puis je reviens, même une époque. J'étais chanteur, Benoît.
Oui, mais on va le voir d'ailleurs aujourd'hui même.
C'est marrant.
C'est marrant. On va remonter dans le temps, d'accord, ensemble. Allez, et je voudrais qu'on commence par la chanson, l'art de l'arrangement, dont vous avez été un des maîtres, dont vous êtes peut-être le dernier grand maître, parce qu'il n'y a plus de studio aujourd'hui où on fait des beaux arrangements.
Là. Je me suis beaucoup amusé à écrire des orchestrations.
Beaucoup.
Beaucoup, beaucoup d'orchestrations différentes. Avec beaucoup d'imagination, avec des trouvailles, avec des idées.
Voilà, et alors on avait écouté ensemble Catherine Sauvage, on avait écouté Jacqueline François. Là, j'ai choisi pour commencer Francis Lemarque.
Une rose rouge, une rose rouge,
une rose rouge, 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 rouge de printemps. Sur un blanc comme sage, 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 sage de 20 ans, vient de fleurir au bord d'un champ de blé. Ce n'est qu'une enfant que l'amour fait rêver. Sur la route blanche, 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 ensoleillée, un nuage danse, 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 danse au vent léger. C'est une troupe qui s'avance au pas vers le vieux village que l'on voit là-bas. C'est l'été et dans le ciel en fait, et d'où les cœurs sont légers, légers sous le soleil. C'est l'été qui fait perdre la tête, car aujourd'hui l'amour, l'amour est en éveil.
Une rose rouge,
une rose rouge,
une rose rouge, 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 rouge s'est donnée. Et le blanc corps sage, 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 sage a frissonné près du garçon qui se beau soir d'été osa le premier sourire à sa beauté. Sous la lune blanche, 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 un baiser, le temps d'une danse, 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 fut osé. On lisait dans les yeux des autres te regarde. Le regret de ne pas être celui, la seule été. Et dans le ciel en fait, la nuit a fait briller, briller ses feux follets. C'est l'été qui fait perdre la tête, car aujourd'hui l'amour, l'amour s'est éveillé. Une rose rouge, 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 rouge s'est fanée. Et le blanc corsage, sage, 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 abandonné. Et resté seul au bord du champ de blé. Ce n'est qu'une enfant que l'amour fait pleurer. Bam, 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 bam. Sur la route blanche, 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 blanche et désolée. Un nuage danse, 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 danse au vent léger. C'est une troupe qui s'en va déjà, quittant le village que l'on voit là-bas. C'est l'été qui laisse solitaire un pauvre cœur blessé, blessé pensant tout bas. Qu'en été, un beau jour de lumière, peut-être que l'amour, l'amour lui reviendra.
Francis Lemarque en 1960, là c'est pas tout à fait vos débuts, d'ailleurs Michel Legrand, vous aviez déjà pas mal d'années d'orchestration derrière vous.
Oui, oui, oui.
Vous l'avez bien connu, Lemarque ?
Très bien, je crois que je peux le dire maintenant. J'ai pas eu de père dans mon enfance. Et tout à coup, quand j'ai eu 20 ans et que je suis rentré dans le monde, quoi, comme ça, du travail, tout ça, je recherchais des hommes qui étaient ou des grands frères ou des pères pour moi.
Ouais.
Et Francis a été l'un d'eux.
Ah oui ?
Oui, et je lui ai dit, tu sais, voilà, je cherche désespérément quelqu'un qui remplacerait un père qui m'a manqué comme ça. Et alors, veux-tu être l'un d'eux ? Il a été avec beaucoup de gentillesse et de générosité, très papa.
Ah, c'est joli.
Il a été formidable, il m'a raconté toute sa vie pendant la guerre, tous les problèmes, les drames, et ça. Et il a été vraiment un ami très très chaud. Très proche de moi.
Mais c'est vrai, bah, il sort de ses chansons une générosité, une poésie, donc c'est vrai, quoi. Il était vraiment comme ça.
Oui, vraiment.
Et alors, en écoutant cette chanson de 1960, je me suis dit, tiens, décidément, je crois que j'ai trouvé un des trucs qui caractérise l'art de Michel Legrand, arrangeur, parce que j'écoutais beaucoup de vos chansons, quand même. Et je me suis dit, tiens, en fait, c'est l'utilisation fréquente et très habile des chœurs dans l'orchestre.
C'est
un peu ça, non ?
Oui, parce que j'avais une sœur, Christiane,
bien sûr,
qui était une soprano, une chanteuse formidable, qui chantait le jazz, le classique, tout. Elle a vraiment tout fait. Et alors, je voulais absolument l'entendre, j'ai écrit pour elle. Elle me montait toujours un groupe vocal.
Voilà.
Que j'utilisais comme une section dans l'orchestre.
Des petits groupes qui portaient parfois le nom de la maison de disques. Il y avait le chœur Fontana,
c'est
là,
ça,
pour,
c'est
par
ça,
exemple,
ça,
là, c'est Fontana.
Ouais.
Hein,
On l'appelait Fontana, on aurait pu l'appeler Lolo de vaisselle. Mais...
mais vous aviez l'idée quand même d'employer presque comme un instrument ce petit groupe choral.
Tout à fait, un petit groupe vocal dans l'orchestre.
Voilà.
C'est pas une partie de l'orchestre.
Et c'est ça qui fait couleur et l'originalité des chansons.
Je sais pas, j'aimais beaucoup ça en tout cas.
Vous aimiez beaucoup ça. C'est l'époque où vous travaillez beaucoup, donc je dirais aussi avec Jacques Canetti, qui vous a vraiment propulsé dans le monde de la chanson. D'ailleurs, sur la recommandation néanmoins de votre père Raymond Legrand, qui n'était pas tout à fait un père, mais qui vous a poussé à ce moment-là.
Oui, tout à fait, bien sûr.
Et alors, il dit, Jacques Canetti, ça m'a un peu amusé, je suis convaincu que sans nos rencontres régulières, il aurait continué et obtenu le prix de Rome. Comme si c'était lui qui vous avait détourné du chemin de la musique classique.
Non, c'est pas lui, vous savez, le prix de Rome. Je voulais me présenter à Rome.
Oui.
Nadia Boulanger m'a interdit de me présenter à Rome.
Ah oui.
Je dis, mais mademoiselle, c'est l'aboutissement de nos études. Il me dit, mon petit, je t'interdis, je ne te permets même pas d'en parler. Je t'interdis de te présenter à Rome. Elle me dit, je vais t'expliquer pourquoi. Elle me dit, voilà, tu comprends, ce sont d'abord 35 personnes qui jugent, qui sont sous la coupole. De ces gens-là, il y a 3 musiciens, Kakoshim, qui n'entendent plus rien. Il y a 35 peintres, 18 architectes et tout,
qui n'entendent rien.
Et c'est eux qui vont juger comment. Secondo, ils vous demandent une cantate orchestrée et vous jouez ça au piano. Comment la honte, tout ça. Et à côté de ça, par contre, me dit-il, je t'autorise à aller avec des crécelles et des boules puantes.
Ah oui, c'était une rebelle, Nadia,
oui,
à sa
oui,
façon.
Tout à fait. Et tu vas aller avec tes camarades et tu vas lancer tout ça pour lutter contre ce maudit Oui.
Mais elle n'était peut-être pas tellement plus contente que vous alliez travailler avec Jacques Canetti pour accompagner des chanteurs de variété.
Ah ben non, mais elle ne le savait pas encore.
Elle ne le savait pas encore. Alors donc, vous avez effectivement, oui, accompagné beaucoup de productions Philips, Fontana de cette époque, à l'instigation de ce grand découvreur qui était Canetti. Oui. Et puis, alors, je voulais aussi qu'on revienne sur un épisode, c'est les débuts de Claude Nougaro.
Oui, tout à fait.
Parce que c'est dans ces années Canetti que vous, qui avez toujours été curieux des auteurs, compositeurs, interprètes, vous découvrez un jeune chanteur.
Voilà, lorsque j'étais au théâtre de l'Alhambra, Maurice Chevalier.
Parce que vous avez dirigé l'orchestre pour Chevalier, pour ce concert.
C'est ça, j'avais orchestré pour lui, tout ça. On jouait tous les soirs. On a fait 6 mois de concert dans ce music hall. J'avais un piano dans ma loge, et alors on m'avait signalé un jeune auteur qui s'appelait Claude Nougaro, je ne sais pas, qui est venu voir. On a fait connaissance, et tous les soirs, à l'issue du concert, sur le piano de ma loge, on s'amusait à faire des chansons. On en écrivait 5, 6, 10. Qu'on allait la journée présenter à des chanteurs de l'époque qui enregistraient, et personne ne voulait de nos chansons, mais personne. Tout le monde, que ce soit Philippe Clay, que ce soit Dario Moreno, mais qu'est-ce que ces chansons-là? On ne comprend rien, mais non, ça ne vaut rien, c'est nul.
Nougaro, lui, ne chantait pas, en plus.
Non, il ne chantait pas, non. Moi non plus.
Ouais. Non, vous non plus.
Bien sûr. Alors, puis un jour, il revient de vacances, Claude Nougaro, avec une série de textes sublime. Il y avait La Petite Fille, il y avait le cinéma, il y avait les Don Juan, il y avait le jazz et la java, et tout à coup je découvre tous ces textes extraordinaires. Alors je fonce chez moi, j'écris les musiques, 8 jours après je reviens, je lui joue tout ça, je lui apprends les chansons, et il me dit c'est formidable, mais il me dit l'ennui, c'est qu'il n'y a personne pour les chanter, les chanteurs, les artistes ne veulent pas de nos chansons. Je lui dis s'il y a quelqu'un qui peut le chanter, il me dit mais non, il n'y a personne. Je dis, si, il y a une personne. Il me dit qui? Je dis, toi. Et il me dit, comment? Mais je ne chante pas. Je dis, mais depuis que tu chantes les chansons, là, c'est toi qui les chantes. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est toi qui vas enregistrer. Ah non, je ne veux pas. Je dis, tu vas enregistrer. Je l'ai forcé la main, pour vraiment, avec un revolver sur la tempe, dans un studio pour faire une maquette de 4 chansons que j'envoie à Canetti en disant, cher Jacques, Frère Jacques, je l'appelais. Je
disais, Frère Jacques, oui, c'est joli.
Je disais, voilà une nouvelle star. Il écoute, il me rappelle au téléphone, il me dit, non Michel, je n'en veux pas, c'est pas bien, ça vaut rien, j'aime pas les chansons, j'aime pas du tout comment il les chante. Enfin, je dis, écoutez Jacques, c'est drôle. Brassens, Brel, tout ça sont rentrés. Grâce à vous, n'est-ce pas, dans notre famille et tout ça. Je dis, c'est assez drôle que là, vous
bloquiez,
butiez,
quoi,
vous butiez sur ça. Il me dit, oui, je dis, écoutez, cher Jacques, moi j'ai beaucoup d'estime pour vous, mais je vais vous empêcher de faire une erreur historique. Car si jamais on ne le fait pas chez vous, tout le monde va savoir que vous avez refusé Nougaro, qui va aller ailleurs, je ne veux pas. Je veux qu'il reste dans notre famille. Alors je lui dis, voilà, je vais l'enregistrer chez vous, dans votre maison de disque, contre votre volonté, mais je vais le sortir, le mixer, et vous verrez que le lendemain, ce sera une star. Il m'a dit, allez-y. Il m'a laissé faire, j'ai enregistré, j'ai produit, j'ai mixé, j'ai tout fait. Et le lendemain, à la sortie du disque, Claude Nougaro était une star.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardot peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. D'abord un beau plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine un grand format, voilà comment mon film commence. Un mètre quatre.
80, des biceps plein les manches, je crève l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras, le lit arrive en avalanche. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma, une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma.
Le cinéma, une de ces chansons qui ont donc lancé Michel Legrand, Claude Nougaro, contre Jacques Canetti.
Oh, voilà. Et Canetti a été très sport. Il m'a invité à dîner 3 jours plus tard en disant « Je vous remercie Michel, grâce à vous, j'espère je ne passerai pas pour un imbécile. »
Et voilà, et c'est comme ça que Nougaro est devenu aussi un interprète de ses propres chansons. Ce qui m'a frappé aussi d'ailleurs dans cette histoire de Nougaro, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui, c'est au fond... Vous qui n'avez pas vraiment besoin de ça, vous avez toujours eu quand même eu un amour, une curiosité pour des auteurs, compositeurs, pas forcément connus. Et quand ça vous plaît, vous êtes prêt à tout pour les soutenir. Je pense par exemple plus récemment à Jean-Guy Denis, avec qui vous avez fait plusieurs disques. Voilà, parce que vous avez simplement cru dans son talent.
Tout à fait.
Voilà.
Et ils ont du talent.
Ouais.
Et il faut, on est là pour les aider.
Et vous êtes toujours partant dans ce cas-là, quand ça vous plaît.
Parce que je trouve que notre destin, notre devoir... C'est de montrer du doigt les gens qu'on aime, qui ont du talent, et on en est certain, et quelquefois de souffler sur des gens qui n'en ont pas. Et... c'est vrai, je veux dire, c'est notre devoir, ça, Benoît, je crois. Mais ça, je me suis beaucoup appliqué à ça.
Mais ça suppose aussi d'écouter, d'aller voir, d'aller dans les clubs.
Mais moi, je passais beaucoup de soirées dans les clubs,
oui,
de jazz, de chanteurs.
Les cabarets.
Les cabarets, tout ça, car à l'époque... Dans les années 50 et 60, il y avait beaucoup de cabarets.
C'est
Paris.
Ça.
Moi, j'ai entendu Jacques Brel quand il chantait à l'échelle de Jacob. C'était un cabaret,
ouais,
où il y avait peut-être 18 personnes
dans la soirée.
Dans la soirée,
ouais. Ouais.
Et c'était formidable. On a découvert des tas de gens comme ça. C'était magnifique.
Voilà. Alors ça, c'était un petit retour sur les années Canetti. Ouais. Je voudrais maintenant qu'on fasse un autre petit retour, cher Michel Legrand, sur... La musique légère,
oui.
Les gens ne savent pas forcément, vous avez été un chef d'orchestre de musique légère, pas très conventionnelle, plutôt très personnelle, avec plusieurs disques à succès. Alors le premier, ça s'appelle « I Love Paris ». C'est un disque qui a fait un tabac aux États-Unis. Oui. On va d'abord écouter le premier morceau, juste pour le plaisir.
D'accord.
Thank you.
Le premier titre de l'album I Love Paris, ouais, Michel ouais. Legrand. 1954, là on est vraiment au tout début. Hein.
22 ans.
22 ans. Et alors c'est donc à ce moment-là que je crois les Américains veulent... C'est le début des 33 tours et veulent faire un disque de musique de Paris.
Exactement. Kennedy m'appelle à la me dit, voilà, les Américains, ils voudraient un disque d'ambiance. On sortait des 78 tours qui duraient 3 minutes.
Oui, bien sûr.
D'ailleurs, ce qui a fait que toutes les chansons...
jusqu'aux années 50 font 3 minutes.
3 minutes, elles ne dépassaient pas.
C'était un bon format.
Oui, tout à fait. Et alors là, c'était 40 minutes, 20 minutes
sur de chaque face.
Côté. Alors il me dit, voilà, ils voudraient un disque d'ambiance sur Paris, sur ce titre-là. Il me dit, voudriez-vous le faire ? Bien sûr, c'était la première fois que j'enregistrais avec un grand orchestre comme ça, instrumental.
Ouais, ouais.
J'ai dit volontiers, Jacques. Mais il me dit, le problème, il ne s'est pas payé, il n'y a pas de royalty, il vous octroie simplement 200 misérables dollars pour tout le travail et c'est fini.
200 dollars ?
Ouais. Alors j'ai dit, écoutez, moi ça m'est égal, pour moi c'est un tremplin, ça me fera travailler, j'enregistre ça. Et aux États-Unis, ils en ont vendu 8 millions dans l'année.
Sans royalties ?
Oui, sans royalties. Oh. Non, mais ça fait rien. Non, mais ça m'a été autant égal. J'étais enchanté, mais la première fois que je suis allé à New York, ils m'ont fait cadeau du disque de jazz. Ils m'ont dit, voilà.
Voilà, parce que, on y reviendra, c'est grâce au succès de I Love Paris que vous avez pu enregistrer avec les plus grands du jazz. Mais ouais. J'en reviens un instant. Donc, en fait, se disent d'ailleurs les grands chefs d'orchestre américains de musique légère, comme Percy Faith ou autres.
Ils avaient tous refusé de faire.
Vous n'avez pas voulu le faire. Non. Voilà. Et finalement, vous vous y êtes collé avec les musiciens que vous avez choisis. Ouais. Vous alliez chercher vos solistes à l'époque. On faisait son marché de solistes. C'était Joss Baselli au début.
Oui, à l'accordéon.
À l'accordéon.
Formidable accordéoniste.
Voilà. Et donc, ce disque est sorti, mais ça a posé un petit problème parce que vous étiez en contrat avec Jacques Canetti, mais vous étiez aussi avec Barclay.
Oui. Écoutez.
Vous n'aviez pas compris ce que c'était qu'une exclusivité.
Non, je ne connaissais pas ce mot. Alors, j'avais signé deux contrats d'exclusivité, l'un chez Eddie Barclay, l'autre chez Jacques Canetti, qui naturellement, au bout de quelques mois, sont aperçus que j'étais en exclusivité deux fois dans des maisons concurrentes. Ils me téléphonent tous les deux l'un après l'autre, ils me disent « Mais je ne sais pas ce que vous faites ». Je dis « Non seulement je sais ce que je fais, mais je tiens absolument à travailler pour ces deux maisons. Mais ça n'est pas possible. » Je dis « Si, vous allez rendre ça possible. Comment ça ? Je vous invite à déjeuner demain. Je vous laisse après une heure pour arranger, comme vous voudrez, pour que je puisse continuer à travailler pour les deux maisons en exclusivité. » Alors ça m'a beaucoup amusé, ils sont venus au déjeuner, ils se sont insultés, ils ont crié beaucoup. Et finalement, à l'issue de ce déjeuner, j'avais un double contrat pour les deux.
Mais vous aviez aussi un double nom, du coup. C'est pour ça qu'il y a eu Big Mike.
Oui, c'est ça, ils ont cherché. Oui, c'était amusant.
Mais... Big Mike sur certains, Michel Legrand sur d'autres.
Tout à fait, oui. Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Ah, ouais.
Alors, il faut dire, donc, ce disque, I Love Paris, qui a eu tellement de succès, a été suivi par deux autres, un disque sur Rome.
Rome, Vienne.
Puis Vienne, alors là, où vous êtes beaucoup plus amusé à détourner la musique légère, je crois
détruire même.
À détruire. Je crois que Pierre-Marcel Onder, qui veillait, n'était pas très content.
C'était... C'était du Spike Jonze quand j'avais fait, pour m'amuser tellement je trouvais cette musique ennuyeuse et puis de façon barbare, intéressante. Quoi.
Vous étiez, je ne veux pas dire influencé, mais dans ces amusements, ces détournements à la Spike Jonze, comme vous dites, vous étiez en complicité avec votre ami André Pop qui faisait ça aussi, lui, dans ses disques.
Oui, on avait travaillé dans une émission de radio tous les deux qui s'appelait « La bride sur le cou ».
Ouais.
Et on faisait toutes les orchestrations, André et moi. Donc on s'est connus, on a travaillé ensemble, on a fait des tas de choses. Et André était un peu comme moi. Il adorait l'humour, le détournement de mineur, de majeur. Et alors on s'amusait beaucoup. On avait la même attitude par rapport à certains matériels qui étaient un peu faiblards, quoi, disons-le.
Une dizaine d'années plus tard, vous êtes aussi beaucoup amusé, parce que moi je trouve ce disque formidable, avec un autre disque qui s'appelle Archicorde.
Oui, parce que vous savez, à l'époque, il y avait plusieurs chefs d'orchestre américains, orchestrateurs, qui faisaient des violons à l'unisson sur toutes les chansons qui sortaient.
Et en France aussi, Franck Pourcel.
Oui, Franck Pourcel, tout ça. Et alors, ça me sortait par le nez. Je n'en pouvais plus. Alors, j'ai fait faire un disque pour en terminer avec les unissons de violon. Et je mets les émissions de violon au vinaigre, au citron, enregistrées avec des choses qui sont absolument insupportables, inécoutables. Et j'ai voulu m'amuser à détruire le violon. Et mystérieusement, ce disque a très très bien marché et est devenu une espèce d'emblème du violon à l'unisson au vinaigre.
Avec par exemple ce titre que j'adore qui s'intitule « Ding, ding, ding ».
Oui.
Et je vous le disais, Michel, c'est l'utilisation des voix dans l'orchestre. Oui, là encore, hein.
Oui, c'est vrai, là, les voix sont stars.
Oui, c'est ça.
Celles qui font le début, le milieu et la fin, avec au-dessus plein les monstres violonistiques,
voilà,
qui vous piquent de partout.
Et les violons, d'ailleurs, généralement, hein, les gens ne savent pas, mais il y avait vraiment toute une bande de musiciens de studio à Paris qu'on recrutait pour les séances,
oui,
notamment les cordes de l'opéra, je crois,
oui,
de l'orchestre de l'opéra.
Les meilleurs, ouais.
Ouais, c'était les
c'était
meilleurs.
C'était les meilleurs, hein. Ouais, c'était formidable.
Alors, Steven Spielberg adore ce début-là.
Oui,
de
il m'a téléphoné,
ding,
il l'a hein. pris dans un film. Après, il y a eu plein de gens qui ont fait des publicités là-dessus. Ce thème a été dans ce disque un très gros succès. À tel point, c'est que la Maison Philips a ressorti Archicorde sous un autre titre, Ding Ding Ding, en tête avec un gros...
Ah voilà.
C'est vrai.
Ça,
c'est le destin des choses, c'est ça qui est marrant.
Ouais.
Je ne sais pas pourquoi tout à coup cette introduction a séduit tant de gens qui l'ont utilisé.
Bah parce que c'est bien.
Je ne sais pas.
En tout cas, bon, voilà, pour en finir avec ce chapitre musique légère, je rappelle encore deux petites choses. Tiens, vous avez fait l'indicatif de Radio Luxembourg. Qui est resté à RTL.
Oui, oui, oui.
C'est vous,
toujours
ça,
là, oui.
Et vous en avez fait des variations, même. Il y a tout un disque de musique légère sur le variation sur le thème.
Oui, parce qu'ils m'ont demandé à Radio Luxembourg de musiquer, d'avoir des indicatifs pour toutes les émissions de toute la journée. Et il y avait environ 18 émissions.
Voilà.
Littéraires, drôles, sarcastiques, tout ça. Et les informations. Et j'ai fait 18 différentes.
Variantes, quoi.
C'est ça, voilà. Des variations. Pour les infos, j'avais fait trompette, trombone qui se répondait pam, 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 pam. Et ils ont gardé ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps après, C'est toujours sur Radio Luxembourg. Et ça passe 12 fois par jour.
Bon, j'aurais pu citer aussi le générique de Oum le Dauphin.
Ah oui.
Enfin bon, des quantités. On va changer de chapitre. Maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de chansons, de jazz, de soul. Ouais. Et qu'on commence avec vous, parce que c'est la même année qu'Archicorde que vous enregistrez une chanson formidable, Quand ça balance.
Ah oui, avec Eddie Marnay.
Ouais.
Oui, parce que je dis à Eddie, on va faire un disque où je chante moi.
Voilà.
Et j'avais envie tout à coup d'être devant un micro et de balancer du jazz et de swinguer comme ça.
Et vous n'y aviez pas pensé avant. Tout d'un coup, vous avez décidé, je vais devenir chanteur.
Oui. Et je me suis amusé pendant quelques années à être chanteur de jazz.
Quand ça balance, on est deux, le jazz et moi. Je crois même qu'on est trois. La contrebasse, la batterie, le jazz et moi. Ça fait déjà plus que ça. Le vibraphone, les trombones, le jazz et moi. Quand on s'est donné le la, il ne manque plus que les trompettes. Et puis voilà, ça me cogne dans les doigts. Quand ça balance, alors là, je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi. Dès que le tempo est là, alors, alors, encore, encore une fois. Quand ça balance, alors là je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi. Dès que le tempo est là,
quand ça balance, quand l'orchestre est avec lui, alors là ça fait du bruit. Quand ça balance, le plafond vole en éclat dans un grand tonnerre de bois. Ça dégringole du sommet du cinquième ciel. Si tout que le jazz est là, et ça rigole dans son cœur qui prend des ailes, et ça lui cogne dans les doigts.
Quand ça balance, alors là je suis chez moi. Oui, c'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi. Quand ça balance, alors là je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi. Oh, ça va.
Michel Legrand, en 1964, vous l'avez fait écouter à Nadia Boulanger, celui-là.
Non.
La pauvre.
Non.
Elle aimait pas trop le jazz.
Non, elle aimait pas du tout le jazz. Dis quoi, comment tu perds ton temps avec ces musiques à trois accords? Mais je dis, mademoiselle, c'est pas ça, c'est le swing. Ah, je t'en prie, ça m'en parle pas.
Et Jacques Canetti, quand vous lui avez dit que vous alliez chanter, il a réagi comment?
Non, il est très bien, d'accord, allez-y. Ouais. On va voir, quoi.
On va voir.
Ouais.
Mais comment vous avez appris? Parce que le scat, le match, ça prend pas du jour au lendemain quand
non,
on n'est pas
je
chanteur.
Je chantais chez moi tout le temps, toute la journée.
Toute la journée à votre piano?
Oui, c'est ça, comme ça. Des chansons comme ça.
C'est comme ça que vous avez appris à chanter, au fond?
Oui, mais même, je n'ai même jamais appris à chanter. Vous savez, on chante sans apprendre.
En tout cas, ça donne un tube formidable.
Oui, c'était amusant.
Avec encore le chœur, avec votre sœur Christiane, etc.
Sûr, oui. C'est cette époque où on pouvait vraiment, sur les disques, faire tout à fait ce qu'on voulait. Tous les délires, toutes les idées, toute l'imagination. Complètement la curiosité, on pouvait y aller. Moi, j'y allais. Je fonçais, j'enregistrais.
D'ailleurs, question subsidiaire, mais vous avez donné la réponse dans la chanson, parce qu'on se pose parfois cette question. Est-ce que le français est une langue qui se prête au jazz, à la soul, à tous ces rythmes-là? Ou est-ce que c'est seulement la langue de la chanson
non,
à
non,
texte?
Pas du tout.
Non,
pas du
pas
tout.
Pas de problème?
Non, on chante le jazz en français de façon absolument précise. C'est magnifique, le français.
Vous aimez chanter?
Oui, j'adore.
Ouais.
On ne chante plus beaucoup, parce que là, j'ai les voix un peu maintenant qu'on vieillit, qui ont un peu éraillé et tout ça. Mais j'ai beaucoup aimé chanter, oui. C'était très amusant.
Alors pour rester sur ce chapitre, vous disiez tout à l'heure, donc, à la suite du succès fabuleux de I Love Paris, donc les Américains vous ont proposé de faire ce que vous vouliez. Vous avez fait votre premier grand disque de jazz avec Miles, Bill Evans, John Coltrane, etc. Des titres comme Django et d'autres morceaux. Voilà, c'est une très belle époque, évidemment. Et puis vous êtes entré dans ce monde du jazz.
Tout à fait. Et j'ai commencé à faire des disques avec Miles, avec Stan Getz.
Beaucoup avec Stan Getz, oui, bien
beaucoup
sûr.
Beaucoup avec Getz. J'ai beaucoup travaillé aussi avec Ray Brown, Shelly Mann, avec Ron Carter, avec Bud Shank, le saxophoniste. Phil Woods. J'ai travaillé avec Phil Woods. J'ai fait je ne sais pas combien d'albums ensemble.
Alors, vous aviez raconté dans une précédente émission comment, à la suite de toutes ces rencontres aussi, vous aviez fait avec Boris Vian les parodies des premiers rock. Parce que vous aimiez le jazz, mais vous n'aimiez pas le rock.
Non, pas du
tout. N'aimez toujours pas.
Toujours
vous
pas.
N'aimez pas la pop.
Non.
Vous aimez le jazz.
Voilà.
Mais ce qui m'a quand même surpris, c'est que vous aimez par contre la soul, le blues. C'est pas très loin de la pop, là. Ray Charles.
Non. Ray Charles, c'est du jazz.
Pour vous, c'est du
le
jazz.
Le blues, oui, le blues, c'est quelque chose de spécial qui appartient au jazz et non pas qui appartient au rock. Le rock est une musique binaire à deux temps et le jazz est une chanson ternaire à trois temps. Et c'est vraiment deux mondes à part.
Ah oui.
Et c'est formidable parce que j'entends maintenant les musiciens de jazz faire ce qu'ils appellent de boogaloo en anglais, c'est-à-dire ils prennent du rock et ils essayent d'en faire une espèce d'amalgame un peu jazz, un peu rock. Et ce n'est pas du jazz du tout, je déteste ça.
Pour vous, c'est deux mondes complètement différents.
Oui, tout à fait.
Mais la musique noire de danse, finalement, vous l'aimez, parce que c'est ça la soul aussi.
Oui, bien sûr, le blues. Ouais. Ça vient du blues, et le blues, c'est un drame formidable, intime, que quelques rares personnes ont su interpréter, très peu, très très peu.
Vous vous rappelez votre première rencontre avec Ray Charles ?
Alors, je veux la première, je ne sais pas ce que c'était. Mais on s'est aimé tout de suite, je veux dire, on a fait des tas de disques, des tas d'émissions, des tas de choses. Et même quand j'ai fait mon film, mon premier film, 5 jours en juin, j'avais demandé à Ray...
En 1989,
oui. 89, de passer par Paris et d'enregistrer le blues qui était l'histoire de ce film. Et il l'a fait de façon tellement sublime. Je crois que c'était un des plus beaux disques de Ray Charles.
One day she loves you, one day she leaves you. Summer's gone, winter's here, and love makes the changes you do. One day the sun shines, and one day rain falls. Giving time, taking time, mending time, breaking time, loving time, leaving time. One day your heart flies, one day your soul cries. Night night, right is wrong, wrong is right, singing a blues song, hardly a new song. Tune is sweet, words are sad, love makes the changes. You, where to go, what to do, would it help if you knew? Just say it's over, it's time to get on with your life.
as you live, you will learn that it's true.
Toots Thielemans, merveilleux à l'harmonica dans ce Love Makes the Change, co-signé par vous-même, Michel Legrand et Ray Charles, dans votre film, où l'on retrouve deux noms très importants pour vous également dans ce film, 5 jours en juin de 1989, c'est Alan et Marilyn Bergman.
Voilà, qui sont un couple de poètes, d'auteurs américains merveilleux, talentueux. Tous les textes de toutes les chansons américaines que j'ai faites.
C'est toujours avec eux.
Toujours avec eux.
C'est ça.
Et on a fait, je sais pas, une centaine de chansons ensemble, quoi. Car à chaque fois que j'avais un thème de film qui sortait, ils me disaient « Oh, Michel, c'est formidable, on peut mettre des textes. » Je dis « Je vous en prie, faites.
» Vous avez d'ailleurs même encore un projet avec eux aujourd'hui,
oui,
et avec Nathalie Dessay.
Oui, on vient d'enregistrer pour Nathalie Dessay, qui va sortir très bientôt, un oratorio pour une voix soprane et orchestre symphonique.
Voilà, parole de vos amis Bergman, qui avait été écrite à l'origine pour Barbara Streisand.
Exactement, que Barbara n'a pas pu chanter. Nathalie était tombée en amour avec ce projet. Je suis retourné en Californie, on a terminé, on a fait des choses. On a tout enregistré à Paris. C'est l'histoire de la vie d'une femme. C'est 14 arias, les unes après les autres, avec des interludes. Entre les interludes, la musique est ininterrompue pendant une heure. Et elle chante la vie d'une femme, la naissance, la petite enfance, l'enfance, le teenager. Après le premier amour, le mariage, mère, etc., divorce, grand-mère, enfin, je dirais, jusqu'à la mort, la dernière chanson, elle meurt en scène, quoi. Et c'est prodigieux.
C'est enregistré déjà. Hein,
oui, c'est
ça
enregistré.
Ça sort bientôt.
Fait, oui. Ça sort très bientôt et on va le jouer au mois de mars 2018.
Alors, pour clore ce petit chapitre américain, Michel Legrand, je voudrais qu'on revienne à Miles Davis, parce que vous l'avez rencontré très tôt, Miles,
oui.
Encore quand il était encore un peu parisien et que vous avez enregistré au premier disque. Et puis, vous l'avez retrouvé pratiquement pas très longtemps avant sa disparition.
Tout à fait.
Pour un film qui s'appelait Dingo.
Dingo.
Et qui est sorti en 1991, je crois.
C'est ça.
Au moment de la disparition de
Miles.
Miles
était acteur dans le film, il avait un rôle.
Ça.
C'est une partie de sa vie, donc, qu'on racontait. Et Miles m'appelle en me disant « Viens, il faut qu'on écrive ça ensemble, j'ai besoin de toi, etc. » Donc je vais en Californie.
Et il était déjà fatigué, quoi.
Oui, il était déjà paresseux. Alors je dis « Miles, viens, on se met au travail. » « Non, ça, non, fais-le. » Il me dit « Moi, je m'en vais. » Je dis « Non, non, on le fait ensemble. » Enfin, ouais. Je l'ai forcé à venir, on a fait ce disque qui est magnifique.
Voilà, bah on va écouter un petit extrait de la bande originale de Dingo avec la trompette de Miles. Concert on the Runway, extrait de la bande originale de Dingo, dernier film donc de Miles Davis avec votre orchestre et vos co-compositions, Michel Legrand, voilà, encore une grande figure. Mais je voudrais maintenant qu'on passe à encore un autre chapitre, c'est celui des spectacles en scène et en musique avec Michel Legrand. Et notamment, on ne sait pas toujours, vous avez par exemple travaillé avec Roland Petit.
Oui,
et
oui, Zizi dans Germer, les années 50.
À l'époque où il produisait beaucoup de spectacles à Paris.
C'est ça. Oui. J'avais écrit des chansons pour Zizi Germer. Voilà. Et j'avais écrit un ballet ou deux pour Roland Petit dans les années 50.
Voilà.
Pour sa troupe, oui.
À l'époque où il était un peu le nouveau Diaghilev de la vie musicale parisienne, avec tous ses ballets, pour Marius Constant, Sauguet et d'autres.
Bien sûr, oui.
Et vous avez également, alors ça on l'avait déjà évoqué dans cette émission, évidemment été compositeur de théâtre beaucoup plus tard au Bouffe Parisien avec le Passe-Muraille.
Bien sûr.
De Didier Van Kovelaert, ouais. D'après Marcel Aimé.
Tout à fait.
Presque une opérette là.
Ben c'est, oui, c'est un opéra bouffe en tout cas.
Un opéra bouffe.
Un vrai opéra bouffe.
Vous êtes attaché aussi à cette tradition-là, seulement à celle de la comédie musicale américaine.
Non, pas du tout, mais je voulais. Moi, j'avais vu une troupe parisienne jouer dans un petit air de banlieue des petits opéras bouffes d'Offenbach.
Ouais.
Et je trouvais ça tellement formidable. Et depuis Offenbach, on n'avait pas écrit d'opéra bouffe.
Ouais.
Et je me suis attaché, je disais, je veux faire une opéra bouffe. Je cherche des sujets, je trouve le Passe-Muraille de Marcel Aimé, j'en parle à Didier. Qui était un passionné de Marcel Aimé aussi.
À juste
titre. Et on a écrit le Passe-Muraille ensemble. Et on a joué à Paris pendant un an au théâtre des Bouffes Parisiens.
Vous reviendrez peut-être à ce genre un de ces jours, puisque vous êtes revenu dans la musique classique, finalement, vous pourriez écrire un grand opéra bouffe.
C'est pas impossible du tout, puisqu'on a écrit dans un autre style, mais des comédies musicales. Qu'on va donner bientôt à Paris.
Et puis alors, j'ai retrouvé un autre document sur un spectacle de vous. Alors ça, vous avez peut-être oublié. C'était en 1970, musique de scène,
ouais.
Avec Jean-Louis Barrault. On va vous retrouver tout de suite, Jean-Louis Barrault et vous, en train d'évoquer ce Jarry sur la butte.
C'est un plaisir de travailler avec Michel Legrand parce qu'il joint la légèreté dans le travail avec une connaissance approfondie de son métier et une inspiration très, très aisée. Enfin, il a la grâce, quoi.
Michel Legrand, nous sommes ici à l'Élysée Montmartre en pleine répétition. C'est un peu la fièvre des dernières répétitions pour ce spectacle Jarry sur la butte. Et je voudrais que vous me parliez de votre rencontre avec Barrault. Comment ça s'est fait ?
Ça fait très longtemps que j'avais envie de connaître Jean-Louis Barrault. Et un jour, Jean-Louis Barrault me téléphone, il me dit « Voilà, je voudrais vous voir ». Alors, je tremble tant, je dis « Mais bien sûr, avec plaisir ». Alors, il vient chez moi. Et puis, il me dit « Voilà, je voudrais vous lire une pièce, c'était au mois de juillet. » Il me dit « Je voudrais vous lire quelque chose. Si ça vous intéresse, voulez-vous en faire la musique ?» Alors, il me lit pendant 3 heures, il m'a fait la lecture de tout Jarry à lui tout seul, avec tous les rôles. C'était un moment fantastique. Et alors, moi, je bondissais, j'hurlais. Enfin, c'était tellement extraordinaire que dans l'enthousiasme, dans la joie, j'ai dit « Mais bien sûr, immédiatement, comptez sur moi, n'importe quand. »
Est-ce qu'il est facile pour un homme de théâtre de bien se comprendre, enfin de communiquer parfaitement avec un musicien ?
Je ne me rends pas compte, mais je peux vous dire que pour un musicien, de travailler avec un homme de théâtre, je n'en sais rien non plus, car c'est la première fois que je travaille pour le théâtre, mais de s'entendre avec Jean-Louis Barrault, c'est très facile. Il est enthousiaste, il est épatant, il est délirant, enfin, il est comme moi, il aime la folie, il aime la beauté, il aime ce qui est important.
La France réunit pour nous tous les attraits. Il y fait chaud l'été, l'hiver, il y fait frais. Les institutions sont mises sous vitrine. Le clergé, la finance et l'armée, la marine. Un suffrage éclairé nomme des députés dont les programmes sont toujours exécutés. Et le char de l'État est du même système que si le père Ubu l'avait construit lui-même.
Voilà, là, je ne sais pas si je vous ai surpris, Michel Legrand, oui, retrouvant ce
je
document.
Je n'avais pas entendu ça depuis très longtemps. Et même là, c'était presque vraiment du jazz parlé. Enfin, c'était vraiment une musique actuelle. Enfin,
c'était un joli spectacle, apparemment, en tout cas.
C'était très original, très original.
Voilà quelques aspects, en tout cas, de votre traversée des scènes de théâtre. Bon, je ne parle pas des plateaux de cinéma, on en a déjà beaucoup parlé dans nos précédentes émissions, mais je vous demande quand même, puisqu'on ne s'est pas vu depuis, il s'est beaucoup réclamé de vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de La La Land ?
Moi, j'ai beaucoup aimé ce film.
Ouais.
C'est un film qui fut... Alors, c'est marrant parce que Il m'a dit, il est venu à Paris me montrer son film, il m'a dit, c'est un hommage que je vous rends, car j'ai entendu 43 fois les parapluies de Cherbourg dans mon adolescence, et j'ai voulu rendre un hommage à ce qu'il avait fait, à Jacques Demy et vous, et j'ai fait ce film pour vous. Il me montre le film, il me donne à tel point que maintenant on va sortir les parapluies de Cherbourg, les demoiselles de Rochefort et la La Land ensemble.
Dans un coffret, commun.
C'est extraordinaire.
En tout cas, on a vu voilà, le mythe que représentent évidemment aujourd'hui encore ces films que vous avez faits avec Jacques Demy. Vous avez d'ailleurs proposé au fil du temps un certain nombre d'adaptations aussi. Il y a eu par exemple les parapluies au Châtelet, voici quelques années.
Oui, c'était très beau. Oui, ça.
C'était un très joli spectacle avec les décors de notre ami Sempé d'ailleurs. Il y a eu l'adaptation des Demoiselles de Rochefort. Il y en a un qui finalement n'a pas été porté à la scène, sauf erreur de ma part, c'est Peau d'âne.
Écoutez, alors non, mais il se trouve, que vous en parliez, c'est drôle, car Aurélie Dupont, qui dirige maintenant la danse à l'Opéra de Paris, m'a commandé un ballet de 2 heures pour l'Opéra de Paris sur Peau d'âne.
Ah ben voilà. Donc...
Et tout à coup, vous aviez raison, et ben voilà Peau d'âne qui va ressurgir.
Qui va ressurgir.
Sous une autre forme.
Mais vous n'en feriez pas une comédie musicale
non, je crois pas.
De Peau d'âne.
Non.
Non. Ça s'y prête moins, peut-être, que les deux
oui,
autres.
Oui, je crois, pas, oui. et puis... Sous forme de ballet, c'est formidable.
Oui, c'est un sujet de ballet,
tout
oui,
à fait,
bien sûr.
C'est vraiment un sujet de ballet.
Où vous reprendrez des éléments de la musique
probablement,
du film.
Oui, probablement. Très peu, mais quelques-uns, oui, peut-être, certainement.
Voilà, donc Michel Legrand sur scène, encore à venir,
oui,
là,
oui.
À l'Opéra de Paris. Bah, on écoute un petit extrait, justement, de la Peau d'âne d'origine. Anne Germain qui chante dans Peau d'âne.
Oui, qu'est-ce qu'elle chante bien.
Elle chante bien. Hein.
Oh, c'est très difficile. Elle chante juste. Elle chante. T'as dit, les intervalles sont très complexes. C'est formidable.
Vous me disiez, hein, Michel Legrand, vous enregistriez avant le tournage.
Oui, on est obligé. Oui, pour que les acteurs, quand on tourne,
voilà,
font semblant
se caler
de chanter.
Sur la...
Mais ça cale sur la main.
Oui, bien sûr.
L'enregistrement.
Bon, en tout cas, voilà, on finit notre petit tour en une heure, notre petit tour du monde et de Michel Legrand en une heure. On va aborder que quelques chapitres, mais ça se complète avec les autres émissions. On revient au classique, d'ailleurs, pour finir, parce que je voudrais qu'on réécoute un petit bout de votre concerto pour piano, Michel. Je reviens, en fait, Canetti disait qu'il vous avait détourné du droit chemin du prix de Rome. Vous avez dit, c'est pas exactement comme ça, mais... Néanmoins, vous pensiez vraiment, à 18-20 ans, peut-être que vous deviendriez un compositeur classique.
Certainement.
Oui.
Mais la place était malheureusement mal interprétée et occupée par un visionnaire de la musique contemporaine qui absolument interdisait toute autre musique que la sienne.
Vous voulez dire le contexte dans cette époque de l'avant-garde sérielle, Boulez, etc. n'était pas un contexte qui vous, en tout cas, vous aurait permis de vous épanouir.
C'était pas pour moi.
C'est ça.
Donc j'ai dû bifurquer ailleurs et aller au disque, au cinéma, enfin de façon à ne pas...
C'est pour ça que tant de musiciens de votre génération sont partis vers le cinéma d'ailleurs ?
Bien sûr.
Delerue, Jarre et d'autres encore ?
Bien sûr. Vous savez, par exemple, il y a des musiciens qui n'ont pas pu vivre de leur musique.
Ouais, ouais.
Des compositeurs, je pense à Marius.
Constant.
Constant, qui lui, il écrivait des ballets pour Roland Petit, mais vraiment, en concert, il ne pouvait pas... exposer sa musique, c'était vraiment monstrueux.
Et le contexte a changé, ça s'est assoupli, là.
Oui, d'où grâce à vous, mon cher.
Oh, mais non, ça
car votre livre magnifique,
oui.
Qui était Requiem pour une avant-garde, a raconté exactement ce qu'était la musique dite contemporaine.
En tout cas, les jeunes compositeurs, effectivement, aujourd'hui, ont une liberté...
Retrouver.
Vous suivez d'ailleurs un peu ce qui se passe sur la scène de la musique contemporaine.
Bien sûr, j'écoute, absolument.
Vous connaissez les Esquech, les Ersan, les Connaissons, les
nouvelles...
Et vous avez, d'une certaine façon, en tout cas, renoué avec ce que vous auriez fait comme musique à 25 ans, c'est-à-dire une musique à la fois moderne, mais... librement tonal, on peut dire.
Bien sûr, absolument. Moi, je suis attaché au cœur, au sang, à la sueur, je veux dire, à l'émotion.
Ouais.
Et c'est pour ça que l'émotion sans tonalité n'est pas possible.
Alors, j'ai envie qu'on écoute, avant de se quitter, un petit extrait du mouvement lent du concerto pour piano, le début, parce qu'il y a une façon de jouer... sur ce thème dont on croit deviner à chaque fois la note finale, mais ça n'est jamais celle qu'on attend. Et c'est très, très subtil, très stravinskien, d'une certaine façon, ou ravelien, je ne sais pas. Okay. Ah, ce jeu sur la note attendue et la note imprévue, c'est ça la musique au fond.
Bien sûr.
Ce qu'on attend, ce qu'on n'attend pas, la surprise.
Tout à fait.
Michel Legrand, malheureusement, faut se quitte et j'ai encore tellement de morceaux que j'aurais aimé qu'on écoute ensemble.
Moi aussi, c'est une telle joie. C'est tellement amusant de faire
des
duos ensemble comme ça. J'adore.
À propos de répertoire symphonique, classique, somme toute, vous vous y êtes remis avec ces concertos, mais vous avez au fil du temps tiré quand même un certain nombre de suites symphoniques, de vos musiques de films et autres. On peut dire que ça fait partie aussi de votre œuvre de concert, ça ?
Absolument. Il m'arrive de jouer en concert des extraits de musique de films.
Oui, c'est ça.
Qui sont vraiment symphoniques et qui sont
considérés comme des œuvres à part entière qui ont leur place en concert.
En concert, tout à fait.
Vous allez d'ailleurs donner fin septembre une soirée, alors là, plutôt jazzy, au Grand Rex à Paris.
Avec les Demoiselles de Rochefort.
Pour les 50 ans des Demoiselles.
Voilà, elles ont 50 ans, les Demoiselles. J'ai écrit donc une espèce de medley comme ça de tous les thèmes pendant 35 ou 40 minutes qu'on va jouer. Avec un big band de jazz.
Sous votre direction ?
Oui, bien sûr, je vais diriger et jouer du piano.
Du piano, d'accord.
Et on enchaîne avec la vision du film sur grand écran géant.
Voilà, restauré, enfin...
Oui, tout à fait.
Voilà, bon, voilà, une grande soirée en perspective, mais sauf que je crois que c'est déjà complet, mais enfin bon.
Oui, oui.
Michel, pour se quitter et pour le plaisir, c'est la seule chanson que j'ai déjà passée, mais j'avais envie de finir avec. Vous l'avez écrite pour votre sœur. Je crois que c'est une des seules chansons que vous ayez vraiment d'ailleurs écrite pour elle, même si elle a participé à tous vos enregistrements.
Bien sûr, oui.
En 1999, Christiane Legrand.
Oui.
Ça s'était fait comment? Et vous l'avez demandé?
Oui, elle me dit, écoute, voilà, je voudrais que tu m'écrives une chanson. Je dis, bien ma chérie, tu veux quoi? Ce que tu veux. Mais je voudrais une chanson qui bouge, qui soit vraiment pour moi, qui soit jazz, qui soit à la fois romantique, mais en même temps très swingante. Et je lui ai écrit cette chanson que j'ai appelée « Rien n'est grave dans les aigus ».
Voilà, très joli titre.
Et qu'elle chante.
Qui va bien.
C'est d'une difficulté, des graves, elle descend à la cave, elle remonte dans les greniers, tout à fait là-haut avec une aisance. Et c'est la seule qui peut chanter cette chanson-là.
Ben voilà, on se quitte avec Christiane, qui malheureusement nous a quittés depuis quelques années déjà, mon cher Michel Legrand.
Hélas.
Mais par contre, moi je vous attends pour la suite, dans quelques temps, dès que possible.
D'accord, avec joie Benoît, avec grande joie.
Merci Michel, à bientôt.
À très bientôt.
J'ai rencontré un cave, je crois qu'il était brave. Mais il était en lambeaux comme un corbeau, alors je suis montée dans les aigus. C'est tellement exigu que j'ai chuté dans mon scorbeau. Et dans le grave, il y avait toujours mon zouave qui m'attendait suave comme un esclave. Mais c'était un scandinave, alors je retournais dans les aigus et je me suis perdue dans cette trop grande étendue. Quand un jour dans le médium on me présente un homme si petit, pas plus haut que bien qu'il ne soit pas trop vilain, même assez masculin, de la porte, on l'aurait pris pour une nature morte. Je retourne dans les graves, et là dans cette enclave, il y avait toujours l'épave qui me regardait d'un œil perdu. Alors en courant, je suis remontée dans les aigus, et là j'ai attendu. De bol, aucun de ces guignols ne m'emmènerait en gondole. Soudain, j'ai l'idée béton, mes chatons, il suffisait de changer de ton. Voilà, 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 et depuis, je trouve tant d'appui. Voilà qu'on me surnomme la femme à homme. J'en ai tellement à mes pieds, là à me supplier. J'ai l'embarras du choix, je reçois des princes et des rois. On va voir lequel sera élu. Tout à coup, sans m'en apercevoir, je me retrouve dans les aigus, où tout est ambigu. Je ne vois plus, tout a disparu, je suis d'octave et descendre à la cave. Là, là, ni dans les graves, ni dans les aigus, je trouve mon cerveau. Salut, salut, salut.
À Rien n'est grave dans les aigus. C'était Christiane Legrand sur la musique de son frère Michel Legrand qui était mon invité ce matin. Et puis je vous rappelle également l'apparition encore récente chez Sony Classical des deux concertos pour piano et pour violoncelle de Michel Legrand avec lui-même au piano, Henri de Marquette au violoncelle et l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Mico Franck.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis tiens, je vous signale encore, puisque j'ai eu le privilège, voici quelques jours, de le voir en avant-première, que Michel Legrand vient également de signer la musique du nouveau film de Xavier Beauvois, Les Gardiennes, qui sort dans quelques semaines. Un film dans lequel le réalisateur de Des Hommes et des Dieux nous offre un véritable enchantement devant la nature, le monde paysan et sa transformation sur fond de drame pendant la Première Guerre mondiale. La musique de Michel Legrand fait merveille sur ces images et cette lumière sublime des paysages du Limousin. Ça s'appelle Les Gardiennes et ça sort en salle au mois de décembre. la fabuleuse danse slave d'Emmanuel Chabrier, tirée d'un de ses opéras comiques. Et ici, c'était Paul Paré à la tête de l'Orchestre Symphonique de Détroit. Un magnifique enregistrement. D'ailleurs, puisqu'il nous reste un petit peu de temps ensemble à écouter de la musique légère, je vous ai choisi une autre page d'Emmanuel Chabrier, la tirée cette fois de son opérette L'Étoile. C'est le duo de la Chartreuse Verte. Je ne sais pas si vous aimez la Chartreuse, mais là, vous saurez tout, en tout cas, sur cette excellente liqueur.
Je me sens, hélas, tout chose. Je suis faible à faire cette liqueur, je suis pas. Nous redonnera, oui, nous redonnera du cas. Pour vous remettre l'homme à son assiette, non, rien ne vaut un petit verre de Chartreuse Verte, de Chartreuse Verte, de Chartreuse Verte.
André Balbon et René Errant dans cet enregistrement de L'Étoile de Chabrier. C'était d'ailleurs en 1943 avec l'Orchestre de l'Opéra Comique sous la direction de Roger Desormières. Il faut dire que Emmanuel Chabrier, qui était un homme plein de verve, de générosité, de bonne humeur, m'a toujours fait penser à un autre musicien, cette fois dans le domaine du jazz, qui lui ressemble un peu par son ton et sa personnalité. C'est Monsieur Fats Waller.
I want some seafood, mama. I want some seafood, mama. Choo-choo to Broadway, food Cincinnati. Don't get icky with the 1, 2, 3. Life is just so fine on the solid side of the line. So hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Put a racket back, I want some seafood, mama. Shrimpers and rice, they're very nice. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Put a racket back, I want some seafood, mama. Steamers and sauce, and then of course I like oysters, lobsters too. Like my taste for fish. When I come home from work at night, I get my favorite dish, fish. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Put a rack sack, I want seafood, mama. Shrimp.
crimpers and rice. They're very nice.
Hold tight.
Hold tight.
Hold tight.
Hold tight.
Rack-a-sack, I want some seafood, mama.
Say, I like Porgy's mackerel too, tasty butter fish. When I come home late at night, prepare my favorite dish.
Fish, hold tight.
Hold tight.
Hold tight.
Hold tight.
Rack-a-sack of water seafood, mama.
I want some 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 seafood, mama.
Fish, 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 fish,
fish. Hold tight, c'était Fats Waller avec son orchestre en janvier 1939. Et puis voilà, encore avant de nous quitter, on a commencé par une première actualité, ce sont les ordonnances. L'autre actualité, c'est la rentrée des classes. Et j'ai choisi cette chanson extraite du film Le Trou Normand, dans lequel Bourvil joue justement le rôle d'un adulte qui se retrouve à l'école avec les petits garçons. Et parfois, il les entraîne pour chanter une chanson.
Allons les enfants, silence! On va chanter une chanson en chœur. Alors, vous y êtes? Écoutez.
Quand on demande aux petits enfants, fan, 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 s'ils sont venus par la cheminée, né, 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 ils vous répondent, c'est évident, don, 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 en suçant dur et glissé du cachou, chou, 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 fan, fan, né, né, don, don, chou, chou, fan, fan, né, né, don, chou, chou. Ah,
c'est maman,
ah, c'est papa, ah, ils nous ont appris tout ça. Ah,
c'est maman,
ah,
c'est
papa, ah, ils nous ont appris tout ça. C'est très bien. Les enfants se réveillent très tôt, 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 tôt. La maman leur peigne les cheveux, veux, 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 veux. Mais le soir, ils reviennent crotter, tê, 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 le nez sale et de la boue jusqu'aux genoux, nous, 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 nous. Toto veut le tété, nounou. Toto veut tété, nounou. Ah,
c'est maman.
Ah,
c'est papa.
Ah, ils nous ont appris tout ça. On s'amuse bien.
Ah,
c'est maman.
Ah,
ils nous ont appris tout ça. Quand ils savent qu'on ne les voit pas, papa, 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 ils s'en vont grimper sur le buffet, fait, 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 pour chipper. Oh, les petits chenapans, pam, 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 la tirelire où l'on garde leurs écus, cu, 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 cu. Papa, pépé, pompon, cucu. Papa fait pompon, cucu. C'est amusant, ah!
C'est maman!
C'est maman! Ils nous ont appris tout ça!
Ah, c'est maman,
ah,
c'est maman,
ah, ils ont appris tout ça. Mais tous les parents sont satisfaits, fait, 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 fait. Ils n'ont pourtant jamais de répit, pi, 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 pi. Les enfants, ça donne du tracas, ca, 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 ca. Avec eux, plus un instant de repos, po, 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 po.
Fait, fait, pipi, caca, popo.
Fais pipi caca popo.
C'est maman. C'est maman.
Ils nous ont appris tout ça.
C'est maman.
C'est maman.
Ils
nous ont appris tout ça.
Les enfants, fanfans, extrait du film Le Trou Normand, c'était Bourvil en juin 1952.
Thank you.
Claudio Abbado au concert du Nouvel An 1991 dans cette polka de Johann Strauss, père avec lequel nous avons terminé ce programme au galop. Ainsi s'achève effectivement Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Jean-Paul Lafavergès, Emmanuel Dupuis, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve la semaine prochaine, ce sera encore une grande joie pour moi que d'accueillir Véronique Jans, qui viendra nous parler notamment de la Veuve Joyeuse qu'elle va chanter pour nous à l'Opéra Bastille. Bon week-end à tous.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.